Chapitre 86. Il fallut 2 jours aux miraculés de Tanimora pour éteindre les incendies et tuer les derniers Norukai, deux sacrés couards dès qu'ils n'étaient plus en masse. Conscients d'être traqués, ils se réfugièrent dans des entrepôts, des cabanes de pêcheurs, voire sous les quais, accrochés à des piliers avec l'espoir de passer inaperçus. Quand les citadins les découvrirent, ils recoururent à des harpons et à des crochets de marine pour les tuer dans l'eau comme de gros poissons. Jugeant que justice était faite, Nietzsche ne s'éleva pas contre ces pratiques. Après avoir quitté l'île Collet, Nathan et elle unirent leurs forces à celles des détenteurs du don locaux. Faisant pleuvoir, ils facilitèrent la tâche des pompiers volontaires. Malgré tous ces efforts, beaucoup de grands bâtiments, dont 20 villas de nobles à flanc de colline, furent réduits en cendres. Pour gérer les milliers de blessés, des habitants de Tanimura et des réfugiés se chargèrent de les trier par ordre de gravité. Dans un bel élan de solidarité, tous les professionnels du textile collaborèrent pour fabriquer des pansements. Avec Franklin, l'archiviste principal, et Gloria, chef des mémoristes, Oliver, Peretta et tous leurs compagnons mirent en application les connaissances acquises à surplomb du monde. Grâce à eux, des milliers de blessés eurent la vie sauve. Contrairement à Bannon, presque ignare en la matière, Lila avait une grande expérience des blessures récoltées au combat, y compris quand il s'agissait d'amputations. Agenouillée près d'un homme victime d'un orukai, la Morassite examinait le moignon de sa main droite. Le sang s'étant coagulé, la plaie ne saignait plus, mais le pauvre homme faiblissait à vue d'œil. Après avoir nettoyé la blessure, Lila la protégea avec un bandage humide qu'elle serra au maximum.
« Ça le maintiendra en vie un moment, » dit-elle à Bannon. « Mais il faut que les guérisseuses et les herboristes préparent d'urgence des onguents, sinon toutes les plaies s'infecteront et il y aura une hécatombe dans les semaines à venir. »
« Ma main !»
gémit le manchot.
« Que pourrais-je faire sans elle ?»
Lila répondit davantage à Bannon qu'au malheureux.
« Quand il est blessé, un gladiateur finit le plus souvent par mourir. Mais tout le monde chez moi connaît l'histoire de Calef, un esclave venu de l'autre bout du monde. Champion incontesté, le jour où un adversaire lui trancha une main, il continue à se battre jusqu'à ce que ses jambes le trahissent. En général, dans ce cas-là, le vainqueur porte le coup de grâce et devient le nouveau champion. Mais la foule, enthousiasmée par son courage, sauva la vie de Calef. Soigné par les meilleurs guérisseurs, il est retourné dans l'arène avec une lame fixée directement à son poignet, vissée, si ce qu'on m'a raconté est exact. Eh bien, il a pris sa revanche et récupéré son titre.
Lila se tourna vers le manchot qui fixait son moignon en pleurant.
Celui-là ne sera jamais un champion. Mais il saura se rendre utile. Tanimura aura besoin de bras, même privés de mains.
Bien que soigner les blessés fût la priorité, il fallut aussi s'occuper des cadavres. Si les guerriers d'Outros ne posaient aucun problème, on dénombrait près de 10 000 victimes éparpillées dans toute la ville. Avec la chaleur humide de Tanimura, la puanteur devenait insoutenable. Attirés par ces relents, des mouettes venaient picorer les yeux des morts, forçant les équipes de ramassage à les chasser à grand renfort de cris. Dans le port, ces mêmes charognards s'en prenaient aux cadavres qui flottaient un peu partout. Alléchés, certains poissons réclamaient leur part de cette manne. Linden et Zimmer affectèrent des soldats à l'assainissement de la cité. Des caristes, habitués à travailler au port, se retrouvèrent avec des cargaisons de cadavres à sortir de la ville. Pour accueillir un immense bûcher funéraire, l'île Collet s'imposa comme le site parfait. Des jours durant, une fumée noire en monta et l'odeur de chair humaine brûlée coupa bien des appétits. Faute de clients, les bouchers et les charcutiers durent provisoirement fermer boutique. Le bûcher laissa sur le sol de l'île une couche de cendres qui aiderait à le régénérer. Un jour peut-être, Collet redeviendrait vivante. Si les darans, les miliciens, les gardes et les spectres de Rogan eurent droit à la crémation, tous les Norukai se virent refuser cet honneur. Lors du ramassage des dépouilles, les pillards furent mis à part, avec l'idée qu'on s'occuperait d'eux plus tard. Entassés sur les quais, ces charognes se décomposaient vite. Et comme on pouvait s'en douter, les esclavagistes se révélaient plus laids encore morts que vivants. Le capitaine Jared, à contre-cœur, accepta que son chasseur se charge du transport des ignobles pillards. Sous l'œil de Zimmer et de Nietzsche, des soldats firent la navette avec des charrettes lestées de cadavres puants, au point que même les pêcheurs de Kraken emplissèrent le nez de dégoût. Le chasseur fit lui aussi plusieurs voyages avec un lot de charognes que Jared et ses hommes jetaient par-dessus bord au large. Qu'ils flottent ou qu'ils coulent, ces morts finiraient dans le ventre des poissons et on oublierait jusqu'à leur existence. Avec une grimace, Jared raconta même que, lors de son plus récent voyage, des requins qui festoyaient sur les morts avaient déguerpi à la hâte, chassés par des selkas. Non sans allégresse, les hommes-poissons avaient déchiqueté à belles dents les cadavres de leurs ennemis jurés. Les marins du chasseur avaient observé ce spectacle avec horreur, mais sans inquiétude particulière. À aucun moment les selkas ne leur avaient paru dangereux. Contents de s'empiffrer de nos rocailles, ils n'étaient pas allés chercher plus loin. Sa superbe oubliée, Jared, barbu et échevelé, faisait pitié à voir. Alors que ses hommes embarquaient une nouvelle cargaison, il croisa les bras et dévisagea Nietzsche venu lui rendre visite sur les quais.
« C'est un travail répugnant, magicienne, mais qui d'autre accepterait de le faire? Une fois encore, mes marins prouvent leur valeur. »
« Votre bateau ne sentait déjà pas la rose, mais là, c'est insupportable. »«
Pourtant, nous ferons avec, magicienne, même si ces carcasses empestent 10 fois plus que nos bestiaux à tentacules. J'ai hâte d'en avoir terminé avec cette corvée. »
Jared rayonna soudain.
« Mes gars sont impatients de repartir à la pêche. Pour l'aider à se remettre, nous livrerons une chair délicieuse à cette ville. »« Soyez-en remerciés, capitaine, »
dit Zimmer sans la moindre conviction.
Déjà en pleine reconstruction, Tanimura n'était qu'une parmi des dizaines de villes et de villages dévastés. Pourtant, les survivants des Frênes, de Larikan ou de Renda sur Bay s'attaquèrent courageusement au déblaiement des gravats. Pendant ce temps, les scieries tournaient à plein pour alimenter les charpentiers déjà en train de rafistoler ou de rebâtir. Comme un seul, tous les artisans œuvraient à la renaissance de la grande cité. On creusait des fondations, on peignait des façades, on nettoyait des murs. Devenus amis après s'être sauvé la vie un nombre incalculable de fois, Thaddeus et Rendel se concentraient sur la reconstruction du front de mer.
« Puisque nous n'avons plus à craindre les Norokaïs, » dit le bourgmestre, « un jour je ramènerai tout mon monde chez nous et nous rebâtirons Renda sur Bay. »«
Compte sur moi pour t'aider, »
assura l'esclave affranchi.
« Ildakar ne reviendra jamais et j'ai besoin d'un nouveau départ. Renda sur Bay semble l'endroit idéal pour ça. »
« Il faudra travailler dur, mais on aura de nouveau un foyer et la liberté !»
L'oreille attirée par la conversation, Nietzsche rejoignit les deux hommes.
« Vous serez maître de votre destin et des règles que vous édicterez. Vous n'aurez de compte à rendre à personne, mais avec ce que je connais de vous, nul doute que vous serez un des fleurons de l'Empire d'Aran. »
4 spectres qui se promenaient en plein soleil, pour eux une expérience encore grisante, approchèrent de la magicienne, l'air inquiet et troublé. Libérés de leurs antiques obligations, ils avaient fait beaucoup de chemin pour soutenir Nietzsche. Aujourd'hui, loin de chez eux, alors que la guerre était finie, ils ne savaient plus sur quel pied danser.
« Cette ville grouille trop d'activité pour nous !»
avoua un homme au front plissé d'inquiétude.
« Nous sommes presque 600 survivants. Outreau c'est mort, mais que deviendra Orogang? C'est notre foyer !»«
Un havre de tranquillité !»
renchérit un autre homme.
« Dans ce cas, installez-vous là-bas. Retournez chez vous et vivez sous la lumière. À cette heure, les Is sont sûrement tous morts. Plus besoin de vous cacher pendant la journée. Cassez les briques et arrachez les planches qui occultent vos fenêtres. Orogang redeviendra un des phares du monde. »«
Mais nous serons coupés de tout !»
dit une femme en tirant sur sa capuche grise.
« Pas pour longtemps. Des marchands afflueront et la cité redeviendra un des carrefours commerciaux de la région. N'ayez crainte. Je parlerai de vous à un certain seigneur Ral. Il pourrait même faire d'Orogang une de ses capitales régionales. Ça vous dirait ? »
Les spectres semblaient retrouver la joie de vivre et l'espoir. Une pièce de plus s'ajoutait au puzzle, peignant de couleurs vives l'avenir rendu possible par la défaite d'Outros et de Calvaire. En même temps qu'ils reconstruisaient, les vainqueurs tentaient de modeler leur avenir. Soutenus par sa rivale et complice Gloria, Franklin organisa une réunion avec les Sœurs de la Lumière.
« Surplomb du monde n'est plus et tous ses trésors sont perdus. Ces grimoires, nous devons les recréer du mieux possible. »
Gloria se tapota une tempe.
« Rien n'est perdu tant que mes mémoristes ne sont pas frappés d'amnésie. Nous reconstruirons des milliers de volumes, mais ça prendra du temps. »
L'île étant transformée en bûcher funéraire géant, les sœurs avaient élu domicile dans une auberge vide dont le patron était tombé pendant l'attaque. Dans la salle commune, jadis bondée de buveurs forts en gueule, les érudits commencèrent à travailler avec des scribes. Pour noter les textes, tout fut bon. Des rouleaux de parchemin aux livres de contes vierges du maître du port. Les yeux mi-clos, les mémoristes répétaient à la virgule près les mots gravés dans leur mémoire magiquement altérés. Après avoir consacré leur vie à l'étude, chaque mot des antiques textes retenant leur attention, les érudits de surplomb du monde participaient à l'élaboration d'une bibliothèque de l'avenir. Enroués à force de parler, les mémoristes ne se laissaient pas arrêter par ce détail. Pour tout retrouver, il faudrait des années, et ils ne connaîtraient pas le repos avant d'en avoir terminé.